Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.
Mes frères, revêtez-vous comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de modestie, de patience, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant mutuellement si quelqu'un a sujet de plainte contre un autre. Mes très chers frères, c'est aujourd'hui le dimanche de la Sainte Famille, le dimanche dans l'octave de l'Épiphanie, est en mémoire, et c'est aujourd'hui la fête de la Sainte Famille de Notre Seigneur, de Saint Joseph et de la Sainte Vierge. Après la visite et l'adoration des mages, l'Église nous donne à contempler aujourd'hui Notre Seigneur à 12 ans au Temple, dans ce fameux épisode de son adolescence qui est le seul qui nous est rapporté dans les Évangiles et qui est le seul qui nous importe. De nombreux enseignements sont donnés aux familles, spécialement aux familles chrétiennes, et avec l'aide de Dieu et du Saint-Esprit, plus précisément, tâchons d'en retenir quelques-uns de ces enseignements, de ces textes si riches aujourd'hui. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous évoquerons, à la suite des commentateurs, les trois caractéristiques des chrétiens qui renferment toute l'économie de leur salut, et nous en ferons l'application en particulier au métier, si j'ose dire, de parents. Ces trois caractéristiques seront nos trois points. Dans le premier point, nous verrons que les chrétiens sont des élus de Dieu. Deuxièmement, qu'ils sont saints. Et troisièmement, qu'ils sont bien-aimés. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Écoutez ce que dit saint Paul dans cet épître aux Colossiens. « Mes frères, revêtez-vous comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. » Et il nous donne un certain nombre de directives morales à mettre en pratique, si tant est qu'il est vrai que nous sommes chrétiens. Tout d'abord, mes très chers frères, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous devons dire quelque chose. C'est que cette fête de la Sainte Famille est une fête qui est très récente. La dévotion à la Sainte Famille est plus ancienne, mais c'est une fête qui est très récente. Elle a été étendue à l'Église universelle par Benoît XV, donc c'est-à-dire il y a à peine 100 ans. Elle est importante, bien entendu, elle est légitime, mais il se trouve que, il faut dire que la famille, que si la famille est non sans raison dite comme l'unité fondamentale ou la cellule de base de la société, ce n'est pas faux de le dire, c'est même vrai. Si c'est vrai, alors il est toutefois impossible de déduire de la fête de la Très Sainte Famille une certaine sagesse générale applicable à tous, à tous les individus, si j'ose dire, indépendamment du christianisme. Ce n'est pas une sagesse humaine que nous enseigne l'Écriture, et a fortiori l'Église, capable de revivifier les sociétés modernes si seulement chaque foyer était un petit Nazareth, alors l'Occident se relèverait, etc. L'Occident est tombé, il est mort, l'apostasie a eu lieu, il ne se relèvera jamais. Maintenant, il se trouve que nous, les chrétiens, mes très chers frères, nous devons non pas chercher à restaurer la société, à réinjecter la société, mais à vivre en tant que chrétiens et que société chrétienne en tant qu'Église, nous devons vivre selon les préceptes de notre religion, indépendamment de toute utilité pour ceux qui sont morts, qui se perdent. Ces gens qui sont morts, les modernes, les occidentaux, peuvent se convertir. Aucun d'entre eux n'est exclu du salut. Si Dieu veut les sauver, il les sauvera. Maintenant, lorsqu'il les sauvera, lorsqu'il leur donnera sa grâce, ils rentreront dans l'Église, et dans l'Église, ils pourront enfin mettre en pratique les principes, et spécialement les principes de l'Église, de l'Écriture sainte, de la religion, à propos qui concernent les familles. Donc, faisons très attention, n'attendez pas que je donne des directives générales qui, si seulement elles étaient mises en pratique, permettraient la restauration de la société. La société est en train de se détruire, nous voyons les derniers débris, en quelque sorte, que Dieu nous garde de toute débâcle, mais elle est détruite. Les hommes, les occidentaux, ne veulent pas de Dieu, ils ne veulent pas de l'Église, et dans les meilleurs des cas, ils veulent être participants de la néo-Église, dirigée par les néo-papes, les néo-évêques, les néo-prêtres. Cette néo-Église qui n'est pas l'Église de notre Seigneur, et lorsqu'on fait partie de la néo-Église, que l'on soit pape, évêque, prêtre, laïc, on n'est pas catholique, il faut se convertir, il faut sortir de cette fausse Église, et il faut devenir catholique. Donc, ce que nous allons dire ne concerne que les catholiques, qui sont les seuls hommes vivant conformément à la volonté de Dieu. Tous les autres sont des morts spirituels qui se débrouillent comme ils peuvent, et tant mieux pour nous s'ils se débrouillent plutôt bien. Ce n'est pas désagréable pour nous de vivre avec des gens autour de gens qui font attention et qui ont quelques principes. Mais ils sont morts spirituellement, ils ne sont pas accessibles à la sagesse divine qui est pour eux une folie ou quelque chose de méprisable. La preuve de ce que nous disons, c'est que l'Église, en enseignant spécialement aujourd'hui les familles, et donc les pères, les mères, les enfants, les familles, dis-je, l'Église nous donne, pour méditation, comme épître, cette épître de saint Paul, qui ne parle pas des principes généraux, de la famille en général, etc., qui n'existe pas. Il dit « Mes frères, revêtez-vous comme, c'est-à-dire en tant que des élus de Dieu, saints et bien-aimés. » Il y a trois caractéristiques des chrétiens. Ils sont élus de Dieu, ils sont saints et ils sont bien-aimés. Nous l'avons dit, nous allons maintenant faire une application de ces trois caractéristiques qui renferment toute l'économie du salut des chrétiens, eh bien, à la famille. Entrons dans le vif du sujet avec l'aide du Saint-Esprit. Saint Paul nous dit donc que les chrétiens sont astreints à un certain nombre de règles morales. Revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de modestie, etc. Par-dessus tout cela, ayez la charité qui est le lien de la perfection. Comment ceux qui ne font pas partie de l'Église, a fortiori qui sont morts spirituellement, comment pourraient-ils se revêtir de la charité par-dessus tout le reste? C'est impossible. Donc, les chrétiens sont astreints à un certain nombre de commandements qui sont méritoires. C'est pour cela qu'ils leur sont commandés. Méritoires au moyen de la foi opérant par la charité. Si les chrétiens mettent en pratique ces commandements avec l'aide de la grâce de Dieu, alors ils méritent pour la vie éternelle, en participation au mérite du Christ. S'ils ne les mettent pas en pratique, ils méritent toujours, mais un plus grand châtiment en cas de désobéissance et aussi en cas de négligence. Alors faisons l'application, sans plus tarder, de ces trois caractéristiques aux familles. Mes frères, revêtez-vous comme en tant que des élus de Dieu, tout d'abord. Les élus de Dieu, c'est notre premier point. Toute l'économie, je le répète, de notre salut est désignée, est contenue et décrite par ces trois termes. Élus de Dieu, saints et bien-aimés. Élus de Dieu, cela fait référence à la prédestination éternelle, à l'élection éternelle de Dieu. Elle est inconnue des hommes. C'est-à-dire que personne ne peut savoir ici-bas s'il est digne d'amour ou de haine, mais elle est certaine, c'est-à-dire que véritablement, Dieu le Père a aimé des hommes, un grand nombre d'hommes, dans son Fils, et il a décidé de les sauver, indépendamment de tout ce qu'ils auraient pu faire pour déterminer ce choix, puisqu'ils ont été aimés dès la fondation du monde. Il y a là un très grand mystère qui, plus on le sonde, plus il révolte l'homme naturel, qui a un certain sens de la justice et qui dit qu'on ne peut pas être aimé par Dieu sans s'être rendu aimable autrefois, c'est du pélagianisme. Et il y a quelque chose donc de révoltant pour l'homme naturel, il y a quelque chose de terrifiant pour le chrétien, qui ne le terrifie pas pour la mort, mais pour la reconnaissance. Comment, moi qui n'étais pas aimable, puisque je suis né d'Adam et j'ai péché en Adam, je me suis révolté contre Dieu en Adam, comment se peut-il que Dieu, le Dieu éternel, mais aimé de toute éternité en son Fils. C'est un mystère, nous ne savons pas si nous bénéficions de cette élection éternelle, mais comme nous allons le voir, il y a un certain nombre de signes, de gages, qui font qu'elle est à présupposer. Elle est inconnue donc, mais elle est certaine. Dieu a véritablement aimé Jacob, et il a véritablement haï Ésaü. Il a aimé un certain nombre d'hommes en son Fils, qu'on appelle les élus, Dieu seul en connaît le nombre, et nous pouvons être certains de l'élection des êtres humains, des hommes et des femmes, que dans la mesure où ils sont au ciel, et spécialement lorsque l'Église les met sur nos autels, là nous savons qu'ils sont véritablement au ciel. Maintenant, cette élection ne doit pas être un sujet d'incertitude et de tremblement stérile dans notre vie. Nous ne devons pas dire « est-ce que je suis élu ? Est-ce que Dieu m'a aimé ? Est-ce que je ne suis pas dans une... » Elle est à présupposer. Quel est le gage de cette élection ? Le baptême. Ce n'est pas rien d'être baptisé, et il blasphème contre la grâce de Dieu ceux qui disent qu'on peut être sauvé sans être baptisé, ou du moins sans le désir du baptême. Dans les cas extrêmes, mais qu'on peut être sauvé sans être baptisé, qu'on peut être sauvé moyennant non pas la foi explicite au Christ, mais l'observation parfaite des œuvres naturelles, de la loi naturelle. Mais comment pourrait-elle être parfaite, puisqu'elle ne peut être parfaite que par la charité? Or, la charité vient de la connaissance du Fils de Dieu, pour ne pas dire de l'insertion dans l'Église, etc., du baptême. Donc, voyez-vous, mes très chers frères, ils blasphèment contre le Dieu très aimant, ceux qui disent qu'on peut être sauvé par un autre nom que celui du Christ, conformément à ce qu'enseigne Saint Pierre dans les Actes des Apôtres. Le gage de notre élection, c'est le baptême. Êtes-vous baptisé ? Oui. Alors présupposez que Dieu vous a aimé de toute éternité. Présupposez que vous bénéficiez de l'élection éternelle de Dieu. Rien ne peut vous convaincre, vous déterminer à croire que vous n'en bénéficiez pas. Vous êtes baptisé, c'est une grande grâce. Oui, mais il y a tant de gens qui sont baptisés, il y a plein d'hérétiques qui sont baptisés, etc. Êtes-vous baptisé ? Oui. Alors considérez-le comme le gage de votre élection. Êtes-vous catholique ? Oui. Êtes-vous néo-catholique ? Êtes-vous traditionnaliste, vagus, qui s'est autodéclaré catholique parce qu'il a fait le constat de la vacance et qu'il refuse désormais que François soit son pape ? Eh bien, vous n'êtes pas catholique. Avez-vous été agrégé à l'Église ? Avez-vous été reçu dans l'Église par les ministres légitimes de l'Église qui ont juridiction pour vous recevoir dans l'Église ? Oui. Avez-vous été baptisé ? Êtes-vous baptisé ? Oui. Deo gratias. Vous devez présupposer que Dieu vous aime. Et la tâche des parents, voyez-vous, mes très chers frères, est la suivante. Eux qui ont eu des enfants, qui les ont fait baptiser rapidement dans l'Église, la tâche des parents peut se résumer à ceci, éviter à tout prix la perte des élus. Alors vous allez dire, c'est un paradoxe, s'ils sont élus, ils ne peuvent pas se perdre. S'ils sont élus, ils ne peuvent pas se perdre. Mais nous ne savons pas s'ils sont élus ou pas. Donc si les enfants se perdent, c'est que les parents, eh bien, ont fait quelque chose qui ne peut pas être pris à la légère. La tâche des parents est donc d'éviter à tout prix la perte des élus, a priori, qui leur ont été confiés, non pas tellement par la nature que par la grâce, par le baptême. C'est une sorte de paradoxe temporel, disions-nous. Les enfants sont donnés par Dieu pour lui être rendus forts dans la foi. C'est pour cela, voyez-vous, mes très chers frères, que des parents qui s'empressent de faire baptiser leurs enfants font bien, mais qui ensuite ne les enseignent pas dans toutes les voies du Seigneur, qui ne leur transmettent pas les principes et les maximes de l'Évangile, ne remplissent pas leurs devoirs. Les enfants sont donnés par Dieu pour lui être rendus fermes dans la foi. Il faut donc qu'ils soient enseignés dans toutes les maximes de notre religion et que les maximes de l'Évangile leur soient sans cesse rappelées. Sans cesse, nuit et jour, je vous renvoie à ce passage du Deutéronome où Dieu dit qu'il faut répéter cette loi, donc ces maximes de l'Évangile, le jour, la nuit, quand on s'assied, quand on se lève, quand on part en voyage, quand on est dans sa maison, etc. Répéter sans cesse. Alors évidemment, il faut que les parents les connaissent. Comment les connaîtraient-ils s'ils n'ont qu'une idée très vague de la religion, s'ils ne nourrissent pas leur intelligence de ces maximes de l'Évangile qu'on peut facilement trouver dans les bons livres, je parle des bons livres, pas des mauvais livres, qu'on peut facilement trouver dans les bons livres, qui sont, je pense au livre de Saint Basile par exemple, qui est en réalité une collection de versets de l'Évangile classés selon les thèmes, les grands thèmes de la religion, de telle sorte que qui médite ce livre, et qui est un florilège de l'Évangile, médite les maximes de l'Évangile. Et quand on médite les maximes de l'Évangile, on les a à l'esprit, et quand on les a à l'esprit, eh bien on peut les enseigner. Si un professeur vient pour faire cours à ses enfants, à ses élèves, et qu'il ne sait pas de quoi il va leur parler, de quoi leur parlera-t-il ? De tout et n'importe quoi, il ne va rien leur transmettre. Tandis que s'il a étudié la leçon et qu'il la connaît très bien, il va pouvoir la leur distiller. et ils vont pouvoir recevoir quelque chose substantiellement du professeur, a fortiori des parents. Il faut que les maximes de l'Évangile soient répétées sans cesse, de telle sorte que ces enfants qui ont le gage de l'élection, qui ont le gage de l'amour de Dieu, Dieu les a fait naître par la nature dans un foyer chrétien, Dieu les a fait renaître par la vertu d'obéissance de leurs parents à l'Église, dans l'Église par le baptême, ils sont extrêmement privilégiés. Ils doivent donc être élevés dans cette perspective qu'ils sont des élus de Dieu devant être préservés pour être présentés à Dieu lorsque le temps viendra par leurs parents. Encore une fois, j'ouvre une toute petite parenthèse, il ne s'agit pas, comme on le voit dans certaines histoires, certains films débiles, etc., où on dit, voilà les enfants, tel enfant, c'est un élu, c'est l'élu, il faut que cette... Ce sont des bêtises, il n'est pas élu pour faire quelque chose, élu pour être le sauveur du monde. Sauveur du monde, c'est notre Seigneur, il n'y a plus rien. Élu pour être quoi? Pour être le dictateur universel? C'est élu pour être l'antéchrist, alors. Non, mes très chers frères. Élu d'une façon générale pour passer avec tous leurs frères, passé, présent et futur, l'éternité au ciel louant Dieu. Voilà pourquoi nous sommes élus. Voilà pourquoi les parents doivent considérer leurs enfants comme des élus, non pas des élus pour telle ou telle chose, pour réussir dans la vie ou autre, si Dieu le veut, eh bien tant pis pour eux, mais il se trouve que élus pour jouir de Dieu pour l'éternité avec tous les frères, avec tous les saints. Voilà comment, je referme la parenthèse, voilà comment il faut comprendre l'élection des enfants, bien entendu. Voyez-vous, mes très chers frères, les élus de Dieu, il est dit que nul ne les ravira de la main de Dieu. Ce que mon Père m'a donné, dit le Christ, nul ne les ravira de ma main. Les parents doivent méditer cette affirmation, non pas pour dire, eh bien, s'ils sont élus, si Dieu les aime, il les gardera, mais pour comprendre ce que cela signifie. Les élus de Dieu sont la proie de la jalousie de nos trois ennemis, de notre triple ennemi, qu'est quoi donc ? Le diable, évidemment, le plus extérieur, le monde, le plus proche, et la chair, le moi, le vieil homme, qui est l'ennemi intérieur. Les parents sont donc les instruments de Dieu, du Christ, pour préserver, autant que cela dépend d'eux, et cela dépend beaucoup d'eux, pour préserver leurs enfants des atteintes de la jalousie, donc de la méchanceté, de la corruption, du monde, de la chair et du moi. Ils doivent lutter avec le monde, avec la chair et le diable, pour implanter les maximes de l'Évangile dans l'âme, dans l'intelligence, dans le cœur de leurs enfants. Le monde, la chair et le diable, le monde et le moi, le vieil homme, sont constamment en lutte pour attirer à eux les enfants que Dieu a donnés aux parents, les élus de Dieu. Nul ne les ravira de la main de Dieu, dans la mesure où les parents, c'est vrai dans l'absolu, mais les parents doivent contribuer à cette protection en luttant, en rivalisant de vitesse, si j'ose dire, avec le monde, la chair et le diable. Le diable, comme dit la Maxime, c'est très juste, ne dort jamais. Les parents doivent bien se reposer, évidemment, mais ils ne doivent jamais se relâcher dans l'enseignement qu'ils donnent à leurs enfants. Constamment, nuit et jour, matin et soir, ils doivent leur rappeler les maximes de l'Évangile. Alors pas comme des perroquets qui répètent quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Ils doivent implanter ces maximes dans l'âme, dans l'intelligence, etc. de leurs enfants, avant que le monde, avant que le diable et avant que le vieil homme les ait gagnés pour eux. Le monde travaille sans relâche. L'homme ennemi, c'est-à-dire le moi, sème sans relâche l'ivraie dans le cœur des enfants. Les parents doivent arracher l'ivraie, je ne parle pas selon la logique de la parabole, mais selon une certaine logique de combat spirituel, ils doivent arracher l'ivraie dans leur cœur et de façon à pouvoir être capables d'arracher l'ivraie dans le cœur de leurs enfants. Si une personne est un père ou une mère est par exemple, gourmand, qu'il ait une grande indulgence vis-à-vis de lui-même, comment ne verra-t-il pas avec satisfaction ses propres enfants devenir comme lui, des gourmands, des gourmets, des gens qui aiment bien manger, etc. Je ne dis pas que les enfants ne doivent pas être habitués à manger de tout, etc., comme c'est la politesse. Je dis que le vice des parents, quand les parents se complaisent dans un vice, Ils verront avec délice ce vice se perpétuer chez leurs enfants. Ce faisant, ils arrachent eux-mêmes des mains de Dieu, si cela était possible, mais sous un certain rapport, ça l'est, subjectivement. Ils arrachent eux-mêmes des mains de Dieu les élus. Ils collaborent avec le diable et le monde, et même le vieil homme. C'est pour cela qu'il faut... C'est une sorte, il faut comprendre que le métier de parent, pendant au moins les premières, la grosse dizaine d'années, les premières années de chacun de leurs enfants, quand je dis dizaine d'années, c'est peut-être une vingtaine d'années même, d'une certaine manière, c'est une lutte d'endurance. C'est une lutte d'endurance qui doit durer aussi longtemps que, eh bien, que la raison est en cours de maturation chez leurs enfants. Des fois, on se dit, certains parents, j'ai entendu certains parents qui disaient, mais je l'ai déjà dit à mes enfants. Comment ? Vous l'avez dit une seule fois, mais il le faut dire au moins 1 milliard de fois par jour, pendant 10 ans ou pendant 20 ans. Voilà ce qu'il faut, vous voyez, pour arriver à ce que quelque chose reste. Évidemment, c'est un peu exagéré, mais enfin, l'idée est là. Vous la comprenez, mes très chers parents. Voyez-vous, mes très chers frères. Alors, il faut que c'est une lutte d'endurance contre le monde, parce que le monde ne se relâche jamais dans son désir d'attirer, dans ses travaux pour attirer les enfants vers lui. Il faut rappeler toujours et sans cesse, quoi donc, maître Schaeffer, les maximes, bien sûr, vous avez compris, mais aussi les raisons de toutes nos actions. Quelles sont les raisons? Quelle est la raison de toutes nos actions? La charité, l'amour fraternel, l'amour de Dieu, l'amour vérifié de Dieu. Voyez-vous, sans la charité, la vertu, voyez-vous, n'est pas toujours préférable au vice. Surtout si le vice a l'air, hein, une apparence un peu noble, un peu rare. Aujourd'hui, le fait d'être orgueilleux, le fait d'être, comment dire, d'être fier, d'avoir de l'honneur, etc., comme on dit, hein, de façon mondaine ou autrefois, quelque chose d'assez rare, etc. Donc du coup, il faut le développer. Et alors, on entend des gens qui disent qu'il faudrait restaurer les duels, sortir sa rapière, etc., à la moindre occasion, etc. Voyez-vous, mes très chers frères, on entend ça chez les traditionalistes. Mes très chers frères, déjà, c'est interdit par l'Église. Et ensuite, il se trouve que c'est une sorte de vice qui, parce qu'il est rare, a l'air d'une vertu. Mais un vice reste un vice, quand bien même très peu de gens l'auraient. Voyez-vous, je ne rentre pas dans d'autres détails, chacun peut faire l'application. Saint Paul, à la fin de l'Épître, nous dit « quelque chose que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, rendant grâce par lui à Dieu le Père. » Voilà ce que nous devons enseigner sans cesse à nos enfants. C'est la raison de nos actions. Pourquoi faisons-nous ceci? Parce que nous le faisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ne faisons-nous pas cela? Parce que nous ne pouvons pas commencer cette action, nous ne pourrions pas commencer cette action au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous faut donc rappeler toujours et sans cesse les raisons de nos actions qui sont la charité, l'amour de Dieu et du prochain, le prochain spécialement les frères. Sans la charité, encore une fois, la vertu n'est pas toujours préférable. Avec la charité, la vertu ne devient pas plus agréable ou plus préférable que le vice, parce qu'il y a toujours le vieil homme qui nous tire dans le sens opposé, mais il se trouve qu'avec la charité, la vertu devient méritoire. C'est une grande corruption, c'est la marque d'une grande corruption d'esprit quand on se dit on va injecter un peu de vertu aristotélicienne dans les modernes pour relever un petit peu le niveau. Alors, que les morts enterrent leurs morts, que les morts fassent ce qu'ils veulent avec les morts. Maintenant, il se trouve que ce n'est pas du tout une marque de christianisme et spécialement pas une marque de désir d'évangélisation ou quoi que ce soit que de prêcher Aristote là où saint Paul nous dit qu'il ne connaît que le Christ et le Christ crucifié. Sans la charité, la vertu ne vaut rien. Avec la charité, la vertu n'est pas plus facile. Elle est, parce que la vertu va la plupart du temps contre notre tendance naturelle déchue, mais la vertu devient aimable parce qu'elle est faite pour ce Dieu qui nous a aimés, rendant grâce par lui, par le Christ, à Dieu le Père. Une action n'est vraiment chrétienne que quand elle peut être faite au nom de notre Seigneur, avec action de grâce à Dieu le Père qui nous a aimés, qui nous a élus de toute éternité. Autant l'élection, il est vrai, je le rappelle, est inadmissible, c'est-à-dire que si Dieu a aimé quelqu'un, il l'aime et rien ne peut le ravir de sa main, autant les parents sont responsables et seront punis pour les enfants qu'ils perdront. Ça ne veut pas dire qu'il faut juger les parents, méchamment, les parents qui ont perdu leurs enfants et qui sont dans le monde, parce que d'une certaine manière, il y a un certain nombre de choses qui échappent aussi aux parents. Mais ça veut dire que les parents ne doivent pas se dire « Oh, si le bon Dieu aime mes enfants, il les gardera dans leur religion. » Il faut dire que si je ne fais pas tout, si nous ne faisons pas tout pour garder nos enfants dans leur religion, alors, autant que cela dépend de nous, évidemment, alors nous serons jugés. Maintenant, évidemment, si cela ne dépend pas de nous, pour diverses raisons assez rares, et s'il se trouve véritablement que les enfants font le choix à un certain moment de quitter par malice la religion, alors, comme on dit, comme l'Écriture dit, leur sang retombe sur leur tête. Mais il se trouve qu'il ne faut pas s'appuyer trop facilement sur l'inadmissibilité de l'élection. Dieu, effectivement, là, il n'y a pas de problème du point de vue de Dieu, il y a un problème du point de vue des parents qui seraient négligents. Donc, voilà, c'était la première caractéristique appliquée au métier de parent de l'économie du salut de Dieu pour nous, l'élection éternelle. Maintenant, passons à notre deuxième point, qui est, saint Paul dit, je vous rappelle, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Les chrétiens sont saints. Alors, saints, évidemment, je ne vous fais pas l'injure de vous dire que les saints ne sont pas simplement ceux qui sont canonisés, qui ont une auréole, qui sont sur nos autels. Saints, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire séparés du monde, de la masse de perdition. C'est une, nous disent les théologiens, c'est une séparation actuelle de la masse corrompue. Il y a une séparation virtuelle, c'est-à-dire c'est que quand, par exemple, quelqu'un est tout entier dans le péché, que la grâce de Dieu ne lui a pas encore été donnée, aux yeux de Dieu, il est déjà saint, c'est-à-dire qu'aux yeux de Dieu, dans l'éternité, Dieu a déjà réalisé le dessein rédempteur, son dessein rédempteur sur cette personne. Mais il se trouve qu'il est encore, il fait encore partie pour le temps, pour un temps, de la masse de corruption. Les chrétiens ont été retirés de la masse de corruption. Les chrétiens, c'est ceux qui sont déjà convertis, c'est ceux qui sont déjà baptisés et qui ont franchi certaines étapes. Donc cette sainteté des chrétiens, cette sainteté habituelle des chrétiens, cet état de sainteté, est un état de séparation actuelle de la masse corrompue par la grâce de la justification et de la sanctification dans le temps. Les maximes de l'Évangile, dont nous parlions tout à l'heure, ne se pratiquent que par la sainteté en acte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être à la fois ami du monde et ami de Dieu, puisque l'Écriture nous dit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. C'est saint Jean qui nous le dit. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Donc les maximes de l'Évangile ne se pratiquent que par la sainteté en acte, c'est-à-dire par une séparation d'avec le péché, d'avec les pécheurs, autant que possible, d'avec les faux frères, évidemment, et ça c'est pour la partie négative. La partie positive, c'est de la sainteté, c'est séparation et union. Union avec l'Église, l'Église qui est, je vous le rappelle, indéfectible, incorruptible, ordonnée, vivifiante. L'Église, c'est pas un cadavre qui perd, qui donne ses enfants avec de faux sacrements, avec des ordres invalides, etc. Ça, c'est la néo-Église. Enfin, ça, c'est normal, c'est la néo-Église, ce n'est pas l'Église. Voyez-vous, et ceux qui sont néo-catholiques, parce qu'ils sont membres de la néo-église par le baptême qui leur a été donné dans la néo-église, doivent sortir, se convertir, etc., afin de devenir catholiques. On n'est pas catholique par une auto-déclaration, une auto-prise de conscience, etc. Ça, on est New Age à la rigueur quand on fait des je ne sais pas trop quoi, mais il se trouve qu'on n'est pas catholique. Donc, voyez-vous, il faut être séparé du péché, des pécheurs, des faux frères, et il faut être uni à l'Église, unis aussi dans l'Église avec les frères. Il ne s'agit pas simplement d'avoir le bon baptême, d'avoir reçu les bons sacrements, il faut encore aimer les frères, être en union avec tous ceux qui sont les gardiens, les défenseurs de la foi et de l'orthodoxie. Ça, ce sont les évêques, c'est ce que nous disons au canon. Union avec les frères, par la charité, par l'hospitalité, par l'assistance, nous en avons parlé précédemment, si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, des sermons plus anciens. Voyez-vous, mes très chers frères, il y a une manière naïve et peu utile d'être séparé. Je dis qu'elle est naïve parce qu'elle n'est pas vraiment méchante en soi, mais elle est assez naïve et peu utile, c'est-à-dire quand les yeux sont privés de la vue du mal et que le cœur est étranger aux maximes de l'Évangile. Il y a des gens, et je ne leur jette pas la pierre parce que ce n'est pas forcément une mauvaise idée, il y a des gens qui mettent des petits rideaux à leur voiture pour que les enfants ne voient pas des mauvaises choses dans la rue. Après tout, on met bien des œillères aux chevaux pour qu'ils ne prennent pas peur et qu'ils ne par des choses qui leur... Pourquoi pas, surtout si par exemple vous avez malheureusement un quartier particulièrement corrompu, etc., c'est peut-être pas forcément une mauvaise idée. Mais il se trouve, donc, je ne jette pas la pierre, je dis qu'il ne faut pas se moquer. J'ai entendu des gens qui se moquaient de ce genre de pratique. Il ne faut pas se moquer. Maintenant, si cette préservation visuelle, cette préservation matérielle n'est pas accompagnée d'un enseignement positif des maximes de l'Évangile, de telle sorte que, quand bien même les yeux seraient confrontés à l'iniquité, le cœur en serait blindé contre lui, aurait une cuirasse contre lui, alors, voyez-vous, ça ne sert pas à grand-chose, et même, vous le savez très bien, ce qui est caché a plutôt tendance à exciter la curiosité. Donc, c'est une manière peu utile et un peu naïve que d'être séparé du monde et du mal que par des moyens mécaniques et pas par un cœur épris et éduqué aux maximes de l'Évangile. Il y a ensuite, bon, ça c'était assez bénin. Maintenant, il y a une manière stérile et subversive d'être séparé, mes très chers frères, c'est quand on se sépare pour de mauvaises raisons. Ah, nous ne mangeons que du bio. Nous refusons absolument tous les vaccins, etc. Alors, je ne dis pas que ce sont forcément des choses très bonnes, mais il y a des gens qui en font une religion. Vous voyez, nous n'avons pas toutes sortes de technologies parce qu'à cause des ondes électromagnétiques, les trucs, machin, la 5G qui manipule les trucs. On se demande comment la 5G pourrait manipuler des gens tellement entêtés dans leurs idées. Voyez-vous, bon, à moins que ça soit ça l'effet justement de la 5G, d'avoir une autre religion, d'avoir d'autres raisons de séparation du monde que celle de la religion. C'est peut-être une influence diabolique très précise justement, et bon, c'est un paradoxe. Donc, vous voyez, c'est une façon stérile et subversive de se séparer. Ah, ces gens-là, c'est rare qu'ils aient du respect humain. Là, ils peuvent carrément cracher au visage des gens, ils n'ont rien à faire, et même on peut les poursuivre avec des légumes génétiquement modifiés, etc. Ils se feront jamais attraper. C'est vrai. Maintenant, c'est pas ça qui va les emmener au ciel. Je ne dis pas qu'il faut pas faire de certaines distinctions et pas éviter de manger du poison. Ça, c'est bien. Ça fait partie du béaba, du bon sens. Maintenant, il se trouve que si on en fait sa religion, le tout de sa religion, effectivement, on sera très séparé d'un certain nombre de gens, et spécialement de qui ? Eh bien, des autres frères qui ne pratiquent pas ces commandements qu'on ne trouve pas dans l'Évangile. Voyez-vous ? Faisons très attention, souvent on se trouve une très grande force d'âme pour se séparer, mais parce que c'est pour les mauvaises raisons, donc c'est pour la volonté propre. Quand bien même il y aurait un aspect compréhensible et pas forcément mauvais, mais si ce sont des commandements auxquels nous nous tenons radicalement, mais qui ne viennent pas de l'Évangile, alors c'est une façon stérile et mauvaise et subversive. Il y a aussi une autre... On préfère vivre centré sur soi-même, ce qui donne lieu à une sorte d'impossibilité de transmettre. On ne transmet pas une attitude qui finalement tient plus du problème psychologique qu'autre chose. Vous voyez, ce genre de séparation pour de mauvaises raisons, la plupart du temps, ce sont des moyens d'une sorte d'autothérapie. Je fais ma thérapie, j'impose ma thérapie à mes enfants. Mes enfants n'ont pas du tout la même, si j'ose dire, la même maladie que moi, mentale que moi. Et il se trouve que ça ne leur sert à rien, cette fausse séparation. Et je prépare, qu'est-ce que je prépare ? Ben, je prépare finalement de futures damnés. Donc faisons très attention, mes très chers frères, surtout à notre époque d'extrême maladie mentale, d'à peu près de toute la population. Faisons très attention, soyons séparés. Soyons très séparés parce que nous sommes saints, mais pour les bonnes raisons. Pour l'amour de Dieu, soyons séparés de tout ce qui ne peut pas se faire au nom de notre Seigneur en rendant grâce à Dieu le Père. Si la séparation n'a pas pour raison et moteur, mes très chers frères, la grâce de la justification, elle est vaine, elle est fausse et elle est illusoire. Elle ne résultera que dans l'impiété. L'impiété n'est pas simplement... le fait d'être irreligieux et de se moquer de la religion et de blasphémer. L'impiété, c'est le fait de prétendre plaire à Dieu sans sa grâce ou autrement que par les moyens qu'il a prévus et disposés, qu'il nous a donnés pour lui plaire, justement. C'est pour cela que les parents doivent expliquer la raison de la séparation, de notre séparation vis-à-vis du monde, aux enfants. autant que leur raison est capable de le comprendre. Il faut d'abord préparer, il faut d'abord pratiquer la séparation, et ensuite, au compte-gouttes, quand c'est opportun, en donner des raisons, mais ne jamais donner de fausses raisons, par respect humain. Vous voyez, c'est des fois périlleux, mais il se trouve qu'il faut donner les bonnes raisons. Les raisons. Et par quelle formule pourrait-on donner à un enfant d'un âge assez tendre, disons, la raison de cette séparation ? Cela déplaît à notre Dieu. Cela est indigne de la vocation du chrétien. Cela est un péché. Pourquoi ne faisons-nous pas ça ? Parce que c'est un péché. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il va penser alors ? Parce que, on va dire, c'est un péché. Ah, mais alors, les parents, tel ou tel, le cousin, etc., ils font un péché. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et nous, nous avons la grâce de savoir que c'est un péché. Donc, il ne faut pas le... Vous voyez ? Il ne faut pas dire, oui, alors c'est bien, donc laisser les enfants se livrer à toutes sortes de jugements, etc. Bon. Mais il se trouve qu'il faut dire, oui, c'est un péché, et non, effectivement, il ne faut pas fréquenter les gens qui commettent habituellement ce genre de péché. Cela est indigne de la vocation de chrétien. Un chrétien ne fait pas ça. Ah bon, on ne fait pas ceci, on ne fait pas, on ne s'habille pas comme cela, comme ça, on ne va pas, c'est-à-dire on ne fait pas telle ou telle, on ne pratique pas telle ou telle chose, non, ce n'est pas un chrétien. Là, une petite fille qui, je prends souvent cet exemple parce que c'est un exemple facile et qui, et apparemment, ça, à chaque fois, ça choque pas mal de gens, mais une petite fille qui voudrait, par exemple, qui voit ses petits frères qui grimpent aux arbres, qui font toutes sortes de choses, et elle dit, ah ben moi aussi, je vais aller les suivre. Eh bien, non, pourquoi ? Parce qu'une chrétienne ne fait pas ça. Mais eux, ils le font. Oui, mais ce sont des chrétiens, ce ne sont pas des chrétiennes, ce sont des garçons, ce ne sont pas des filles. Et même chose, même si j'espère que ça n'existera jamais, mais un petit garçon qui voudrait faire des choses de petite fille, on va dire non, un petit chrétien ne fait pas ça. Oui, ma petite sœur fait ça. Mais c'est une petite fille, voyez-vous ? Et ensuite, il faut détourner l'attention et aider les enfants qui seraient peut-être un peu comme ça, et il faut les aider à discrètement, doucement, de façon la plus charitable possible, il faut les réorienter. Voyez-vous, mes très chers frères, notre époque est une époque abominable, et il faut parler de ces choses-là, et il ne faut pas penser que ce n'est que vrai que pour les autres. C'est l'air que nous respirons qui est empoisonné. Et si déjà des Saint-Augustin, des Saint-Grégoire et des Bossuet disaient que l'air que nous respirons est empoisonné, alors que dire de l'air moderne, de la société moderne ? C'est un air qui est pestilentiel, qui est empoisonnant, et il n'y a que l'imprégnation par les maximes de l'Évangile qui peut préserver les élus de la contagion mortelle du monde. Il n'y a que la charité qui peut faire obstacle. La charité doit saturer le chrétien de telle sorte que quand l'eau du péché veut rentrer dedans, eh bien, il ne trouve plus de place pour y pénétrer. Rendre compte donc des raisons de la séparation aux enfants de cette manière-là, cela déplaît à notre Dieu, cela est indigne de la vocation du chrétien. Un chrétien, une chrétienne ne fait pas cela, cela est un péché. Il y a donc un principe, mes très chers frères, toujours pour les parents, un principe, c'est qu'il n'y a pas d'association possible entre le Christ et Bélial. Il n'y a pas d'association possible entre les lumières et les ténèbres. On ne peut pas mettre un bœuf et un âne sous le même joug. C'est impossible. C'est interdit par la loi de Moïse. Voyez-vous, c'est une inimitié irréconciliable. Nous sommes irréconciliablement séparés du monde parce que nous sommes saints. Et enfin, c'est notre troisième et dernier point, nous sommes bien-aimés, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Nous sommes bien-aimés. Alors vous allez dire, ça rejoint un petit peu ce que vous avez dit à propos de l'élection. Oui et non, parce que saint Paul nous dit, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. L'amour de Dieu, pour les élus, nous dit un moraliste, les purifie dans le temps, par la grâce, et les glorifie dans l'éternité, par la gloire, la grâce accomplie. La gloire. L'amour de Dieu pour les élus les purifie dans le temps par la grâce et les glorifie dans l'éternité. Il y a donc ici un principe que les parents doivent bien connaître, c'est que nous avons été aimés par le Père Céleste en son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, et nous devons vivre conformément à l'amour dont nous avons été aimés. Nous avons été aimés gratuitement, mais l'amour de Dieu pour nous a coûté un prix infini à Dieu, puisque ça lui a coûté le sacrifice de l'humanité de son Fils unique. Pour nous, la grâce est gratuite, mais celui qui nous a obtenu la grâce l'a obtenue au prix de ses souffrances, de son abaissement, de ses humiliations, de sa mort, de sa passion, de sa mort, de sa descente aux enfers et de sa résurrection, bien entendu, qui sont les perfectionnements de l'œuvre du Messie. L'amour de Dieu pour nous est purement gratuit, mais il a été très coûteux pour Dieu. Nous ne devons donc pas gaspiller l'amour de Dieu en disant, comme ce poète du siècle dernier qui disait « Le métier de Dieu, c'est de pardonner ». Effectivement, notre Dieu est très lent à la colère, il pardonne, il est riche en miséricorde. Mais si on dit « Son métier, c'est de pardonner », alors on lui crache au visage. Malheur à ceux qui, dans l'œuvre du salut, sont du côté des bourreaux. Voyez, et nous le sommes tous, dans la mesure où nous sommes ingrats. Nous avons été aimés par le Père céleste en son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Le devoir de gratitude doit être enseigné aux enfants. Nous devons leur enseigner à être reconnaissants envers ce Dieu qui les a aimés en notre Seigneur. Attention, pas envers ce Dieu qui nous a aimés en nous donnant de tellement belles choses, des belles fleurs, etc., des beaux fruits, etc. Ça, nous devons remercier Dieu parce que effectivement, c'est Dieu notre Créateur. Mais nous devons le remercier encore plus pour le salut qu'il nous a donné. Vous allez dire, pourquoi opposer les deux ? Eh bien, c'est-à-dire que si vous ne faites que l'un, vous êtes musulman. Mais si vous remerciez le Créateur, c'est une chose excellente et il le faut. Merci mon Dieu pour ce beau ciel, merci mon Dieu pour cette pluie qui tombe, merci mon Dieu pour les saisons qui changent, effectivement. Mais attention, merci surtout pour l'amour et la rédemption en notre Seigneur Jésus-Christ. Sinon, encore une fois, vous vous trompez de religion. Et si vous dites, oui, mais il y a un aspect un peu terrifiant parce que c'est le sang, c'est la croix, c'est les tourments de notre Seigneur, etc. Eh bien, contemplez-les parce que nous ne sommes sauvés que par ça. Il n'y a que ça qui nous sauve. Et si ça vous dégoûte ou si ça vous choque, on se demande où ce que vous êtes. Soyons reconnaissants, enseignons la reconnaissance. Une bonne chose à faire, c'est l'anniversaire du baptême, qui est plus important que l'anniversaire de naissance même. Mais attention, il ne faut pas que l'anniversaire du baptême soit l'anniversaire, la fête du mois, hein, la fête du mois, qui fait que je suis le centre pour ça, et moyennant le baptême, l'anniversaire de baptême, parce que du coup ça fait plus spirituel, etc., c'est la fête de moi qui ai été baptisé. Moi qui étais mort par mes offenses, oui mais je n'avais que 3 jours, je n'avais qu'une semaine, j'étais mort par mes offenses, si j'étais mort avant mon baptême, je serais allé en enfer. Et j'ai été baptisé. Et maintenant, je peux aller au ciel. Il faudrait presque pleurer l'anniversaire de naissance naturelle autant qu'on devrait fêter l'anniversaire de baptême. Je dis ça de façon un peu hyperbolique pour faire comprendre, bien entendu. Soyons toujours raisonnables. Vous voyez, la reconnaissance pour la vie éternelle, pour la capacité de la vie éternelle. Alors, ça veut dire que j'ai été baptisé, ça veut dire que je vais aller au ciel. Si tu observes les commandements de Dieu au moyen de sa grâce. Si tu fais tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, rendant grâce par lui à Dieu le Père. Vous allez dire, ça me semble un peu artificiel. Ça vous semble artificiel, comme la santé vous semble un beau rêve inaccessible quand on est malade. Ça vous semble artificiel parce que vous n'êtes pas chrétien, tout simplement. Quand on est chrétien, c'est la respiration même de l'âme. On se dit, mais comment peut-on ne pas être reconnaissant ? Comment peut-on ne pas rendre gloire à Dieu pour le salut qu'il nous a donné gratuitement en son Fils, qui a tout accompli pour nous ? Comment est-ce possible ? Comment est-il possible d'être aussi animal ? Ce n'est pas moi, ce n'est pas nous qui le disons, c'est saint Paul. Comment l'homme peut-il être si animal qu'il ne comprenne pas la sagesse de Dieu. Eh bien, mes très chers frères, par le baptême, par la grâce que Dieu nous a donnée, eh bien, nous pouvons ne pas être de cette humanité-là. Deo gratias. Il nous faut donc faire prendre conscience aux enfants du privilège d'être baptisé, d'être dans l'Église, qui n'a rien à voir avec le fait d'être chrétien, de manger du cochon, de pouvoir... Dans certaines parties, j'avais lu ça quelque part, dans certaines parties de l'Asie lointaine, où il y a des peuples chrétiens, c'est un peu une sorte de proverbe des chrétiens qui disent « Je suis chrétien, je mange du chien. » Parce que c'est interdit aux musulmans. Mon Dieu, si c'est ça la caractéristique du chrétien... C'est peu quand même, c'est peu. Et puis cette caractéristique des chrétiens de là-bas, même elle fait un peu quand même horreur aux chrétiens d'ici, manger du chien. Bon, alors vous voyez ce que je veux dire. Alors, je suis reconnaissant d'être chrétien parce que sinon je serai un enfant de damnation, je serai un enfant de colère. Ah, vous allez dire, mais ça induit les enfants à voir la prière du pharisien. Merci mon Dieu, je vous rends grâce, mon Dieu, de que je ne suis pas comme le reste des hommes. Mais vous savez très bien ce que dit notre Saint-Père à propos de la faute du pharisien. Il attribuait toutes ces choses dont il rendrait grâce à Dieu à son propre effort, à sa justice propre, et non pas à la grâce de Dieu. Merci mon Dieu du fait que nous ne sommes pas comme le reste de l'humanité, qui ne sont pas baptisés, qui sont sans la grâce, qui sont sans la lumière de l'Évangile, qui ignorent les maximes de l'Évangile. Et en disant cela, j'ai moins l'impression de décrire des païens que de décrire des chrétiens, la plupart des chrétiens, des gens qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas. Il y a quelque chose de très important encore à savoir, mais très chafferet, je l'ai déjà dit, mais je le répète encore. Lorsque notre Seigneur dit, lorsque dans l'Évangile, notre Seigneur dit à ses parents, donc à la Sainte Vierge et à Saint Joseph, son père adoptif, il dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois être aux choses de mon Père? Alors, évidemment, les enfants doivent bien comprendre cette façon de parler de notre Seigneur, parce qu'ils ne doivent pas en induire le fait de répondre à leurs parents. Maintenant, pour les parents, lorsqu'ils méditent cette parole de notre Seigneur, ils doivent comprendre quelque chose de très important. C'est que la religion n'est pas le dada des parents. Or, il se trouve que dans le militantisme, dans le traditionnalisme, la plupart du temps, surtout quand les parents sont convertis, la religion est un peu leur dada. C'est-à-dire que la religion, c'est le truc qui les intéresse. Ils ont enfin trouvé leur truc. Certains s'intéressent à la Formule 1, d'autres au foot, etc. Eux, ils s'intéressent à la religion de la même manière. Donc, ils vont être tout le temps en train de parler de ça. Ils vont tout le temps... Alors vous allez dire, mais vous avez dit qu'il fallait en parler tout le temps. Oui, mais en parler pour l'enseigner, pour la transmettre, ou en parler comme quelqu'un qui assomme son prochain avec son dada. Vous voyez ? Si vous êtes passionné des voitures, des automobiles entre 1918 et 1923, et que vous savez tout, etc., alors ça peut être intéressant. J'imagine qu'il n'y a rien qui soit totalement inutile. Mais si vous en parlez constamment, 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 à tout le monde, les gens vont vous fuir. Non pas parce que vous vous intéressez à des choses qui sont ignobles, etc., mais parce que ça agace, parce que ça n'intéresse que vous, en réalité. Vous voyez ? Un exemple, bon, j'espère que ça ne vexe personne. Maintenant, il se trouve que si les parents parlent de la religion à leurs enfants comme on parle de sa passion ou de son dada, alors, voyez-vous, mes très chers frères, on fait exactement le contraire de ce qu'un parent doit faire. La religion, par ailleurs, n'est pas un moyen de pression pour imposer sa volonté propre à ses enfants. C'est-à-dire que, alors vous allez dire, mais alors comment distinguer le fait d'imposer la volonté du père ou de la mère aux enfants et le fait d'imposer la volonté propre? On reconnaît la volonté propre, conseil pour les parents, on reconnaît la volonté propre à sa fantaisie, au fait qu'elle a une absence du sens de la tradition. C'est que papa ou maman veut que les choses soient faites comme ça, non pas pour qu'elles soient transmises parce qu'elle les a reçues, il les a reçues de cette manière-là, mais parce que ça lui plaît, ça lui chante, et que c'est comme ça. Voyez-vous ? Ça, ce n'est pas une manière... Il faut que les parents considèrent que la religion ne leur appartient pas, que les traditions ne leur appartiennent pas, et qu'ils doivent les transmettre comme un trésor inadmissible se transmet de génération en génération, comme un nom se transmet, comme un titre se transmet. Vous voyez, si un comte, un duc, etc., est tellement entiché de son titre qu'il en fait une chose personnelle, il ne pourra pas transmettre, ou un prince, il ne pourra pas transmettre l'essence de la noblesse à ses enfants pour qu'eux-mêmes soient de dignes princes, ducs, comtes, etc., après lui. Même chose pour la dignité de chrétien. Si c'est le truc des parents, si c'est un moyen de pression, si les parents sont tout le temps en train de dire « Ah, les enfants doivent respecter les parents, doivent respecter les parents », ils ont raison. Ils ont raison, mais la manière de le dire, qui est finalement faite pour capter de l'autorité, fût-ce sur les enfants, est une... Alors, ça ne veut pas dire que les enfants ne doivent pas obéir. Ça veut dire que les parents se mettent dans une situation où ils ne peuvent plus rien transmettre, puisque leurs enfants, et les enfants, si j'ose dire, c'est loin d'être bête, les enfants voient très bien qu'il ne s'agit pas d'obéir à Dieu par les parents, interposé, il s'agit d'obéir sous prétexte de Dieu à un parent qui, dans le fond, est fantasque. Alors, les parents ne sont pas constamment fantasques, mais ça arrive. Voyez-vous, ce genre de parent n'est pas forcément constamment, mais ça arrive, et malheureusement, quand ça arrive, c'est suffisant pour faire des précédents et pour dégoûter les enfants de la religion. Surtout à notre époque, où il n'y a plus rien dans la société qui donne un appui à la religion, une objectivité à la religion. Voyez-vous, mes très chers frères, attention à la volonté propre, déguisée en volonté d'autorité et légitime. Il y a parfois les parents qui imposent une sorte de décorum artificiel qui satisfait leur vanité, qui se confond parfois avec de la modestie, avec des bonnes mœurs chrétiennes, etc. Mais on voit toujours la différence. Vous voyez ? Une certaine impatience, on veut que les enfants soient très calmes, etc. Et il faut que les enfants soient éduqués à être calmes, à être modérés, à ne pas faire du bruit, ne pas être une sorte de monstre qui détruisent tout et qui font un bruit infernal. Mais si c'est uniquement parce que les parents ne supportent pas le bruit et qu'ils ne veulent pas qu'en leur présence on fasse du bruit, alors les enfants iront faire du bruit plus loin et ils seront hypocrites vis-à-vis d'eux-mêmes. Vous voyez, je ne dis pas que les parents doivent tout tolérer sous prétexte de ne pas être hypocrite, de ne pas pousser les enfants à l'hypocrisie. Il se trouve qu'il y a un juste milieu. Il faut faire très attention à une certaine impatience qui forcerait en quelque sorte un masque et non pas une habitude profondément ancrée dans l'âme. D'une façon générale, si les parents sont superficiels avec Dieu, eh bien les enfants seront superficiels avec leurs parents. C'est une loi qu'on voit assez souvent et c'est quelque chose d'assez naturel quand on y pense bien. Le but des parents, c'est que la religion soit embrassée par leurs enfants pour l'amour de Dieu et pour l'amour de Dieu seul. Évidemment, vous savez, il n'y a rien de plus triste quand on entend des jeunes complètement débiles qui disent « Oh, on va se marier à l'église pour faire plaisir à mamie » et tout ça. Vous croyez que ça lui fait vraiment plaisir ? Et si ça lui fait plaisir, c'est que vraiment, et en même temps c'est un cercle vicieux, parce que si vous dites ça, c'est que probablement elle vous a enseigné à lui faire plaisir, donc à avoir des actes religieux extérieurs, simplement pour faire plaisir. Faites plaisir à Dieu, nous nous marions à l'église, parce que nous n'envisageons pas de commencer une vie à deux, autrement que de la bonne manière, évidemment, et avec la bénédiction de Dieu. Et il se trouve que, comme nos parents, nos grands-parents sont chrétiens, ils seront heureux. Mais, d'une certaine manière, c'est tellement évident qu'on ne va pas dire « on va se marier à l'église, vous allez être heureux ». Ben oui, c'est évident, vous voulez vous marier comment ? Vous voyez, mes très chers frères. Donc, il faut que les parents, que la religion soit embrassée pour l'amour de Dieu par les enfants. Le moyen d'y arriver, avec l'aide de Dieu, évidemment... Mais enfin, il faut le savoir, le moyen, c'est d'aimer, pour les parents, d'aimer soi-même réellement Dieu. Vous ne pourrez enseigner l'amour de Dieu à vos enfants que si vous aimez réellement Dieu. Vous savez, l'argument « faites ce que je dis et faites pas ce que je fais », c'est quelque chose... Dans le fond, il est très vrai. On n'a pas, si quelqu'un, si un maître, si un supérieur, si un parent nous dit quelque chose de vrai... et que Dieu enseigne, il faut le mettre en pratique, même si nous ne le voyons pas mettre en pratique. Mais la réalité, c'est que dans les faits, évidemment, c'est catastrophique. C'est absolument catastrophique. Si vous n'aimez pas Dieu, si vous ne craignez pas Dieu, si vous ne lui obéissez pas à tout prix jusqu'à votre propre détriment, alors il se trouve que vous ne pourrez jamais transmettre l'amour de Dieu, a fortiori l'obéissance et la crainte de Dieu, à vos enfants, parce qu'ils ne le verront pas chez vous. Il y a une dernière chose à rajouter, dans un autre ordre. À la fin de l'évangile, il est dit « Mais eux n'avaient pas compris la parole qu'il leur avait dite. » Alors, nous n'entrons pas dans l'exégèse des commentaires de cette parole qui est paradoxale, etc., mais qu'il faut bien comprendre et que les commentateurs expliquent parfaitement. Je vous renvoie au bon commentaire. Mais non, il se trouve que parfois, mes très chers frères, bien souvent même, sous un certain rapport, les voix de Dieu dans le cœur des enfants sont invisibles aux parents. Des fois, les parents ont l'air de travailler, de souffler dans un violoncelle, comme on dit, ils ont l'air de travailler pour rien, ils répètent, les enfants n'obéissent pas, ils répètent, ils font tout ce qu'il faut, et il semble que rien ne se passe. Et ils se découragent. Il ne faut pas se décourager. Parce qu'il y a bien des choses qui ne sont pas comprises, puisque même la Sainte Vierge, la très Sainte Vierge Marie et Saint Joseph, à un certain moment de leur existence, n'ont pas compris ce que disait notre Seigneur. Alors, voyez-vous, évidemment, vous allez dire, c'est peut-être unique pour notre Seigneur. Bon, Maintenant, il se trouve que les voies de Dieu sont mystérieuses, et il se trouve que une fois que le paysan a jeté le bon grain dans le terrain, il faut que le grain meure. On a l'impression que les terrains sont pillés par les oiseaux, c'est pour ça qu'il faut chasser les oiseaux. On a l'impression qu'il ne reste plus rien. On a l'impression que la saison passe et qu'il n'y a plus rien qui... Et tout d'un coup, il y a l'herbe qui commence à pousser. Le grain commence à pousser. Tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y en a énormément encore, que heureusement qu'on a chassé les oiseaux parce qu'on a gardé un maximum de bons grains et que le blé commence à pousser en son temps. Il ne faut pas essayer... Il faut que chaque âge ait les actes de la piété qui lui conviennent. Bien sûr, il ne faut pas dire « je ne vois rien, mais tout va bien, mes enfants sont tous au bar pendant la messe, mais tout va bien, la voix de Dieu, les voix de Dieu sont dans son bain. » Non, c'est pas, vous avez compris. Maintenant, il se trouve qu'il ne faut jamais se décourager en disant « mais je parle, je leur parle, ils ne comprennent rien, ils ne retiennent rien. » Vous n'en savez rien. Et regardons-nous nous-mêmes, combien de fois un adulte dit-il « je me souviens que mon père m'a dit, etc. » Et si son père est encore vivant, il dit « vous vous souvenez, vous vous souvenez ?»« Mais je ne me souviens pas du tout, mais du tout de vos derniers... » Et pourtant, ça m'a frappé. Voyez. Et puis des fois aussi, évidemment, les parents ou les pères, les mères disent « voilà, je vais dire un mot historique à mon enfant, mon enfant sera... » etc. Et puis l'enfant, il s'en souvient absolument pas. Pourquoi ? Parce qu'il avait de la volonté propre. Voyez-vous ? Aimez Dieu constamment, craignez Dieu... Vivez à genoux devant Dieu, suppliez Dieu de sauver vos enfants, et vos enfants verront et garderont à l'esprit des parents craignant Dieu, des parents pieux, des parents qui étaient dépris d'eux-mêmes, autant que cela est possible, dépris d'eux-mêmes et qui aimaient tout entier Dieu. Et ça, vous savez ce que dit l'Écriture, ce que le jeune homme apprend dans son enfance, il le garde jusqu'à sa vieillesse. S'il apprend de ses parents l'amour de Dieu, du Dieu qu'ils aiment, il aimera Dieu jusqu'à sa vieillesse. Si ses parents veulent qu'il soit pieux, mais qu'eux-mêmes n'aiment pas Dieu, ou pas autant qu'ils le devraient, c'est-à-dire pas, alors, dans le meilleur des cas, ils en feront un perroquet, ils en feront quelqu'un qui leur fera plaisir, mais c'est tout comme nous avons dit. Il faut simplement et toujours agir avec habitude. Il faut enseigner les principes, il faut corriger les fautes, il faut que le quotidien des parents soit une répétition incessante de toujours les mêmes principes, toujours les mêmes choses, sans variation évidemment, sinon ça fait l'effet inverse. Et on dit une fois que c'est bien, une fois que c'est mal, donc les enfants ne comprennent plus rien. Une répétition incessante, et les enfants doivent être soumis aux parents. Évidemment, ils doivent être soumis aux parents. Il ne s'agit pas de les laisser faire n'importe quoi sous prétexte, encore une fois, que la grâce... il faut qu'ils soient soumis aux parents, il faut que la mère soit soumise au père, il faut que le père soit soumis à Dieu et à ses ministres. Et alors, mes très chers frères, on pourra dire, mais toujours a posteriori, quand les travaux sont passés, on pourra dire cette partie qu'on trouve, ce verset qu'on trouve dans la deuxième partie du graduel, « Heureux ceux qui habitent dans votre maison, Seigneur, ils chanteront vos louanges à jamais. » Mes frères, mes sœurs, que nos foyers soient la maison dont on puisse dire qu'elle est la maison du Seigneur. « Heureux ceux qui habitent dans votre maison, Seigneur, ils chanteront vos louanges à jamais. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.